Radio Kapi.
Le journal présenté par Belinda Bosuma. Ils ont fui l'insécurité dans leur village, mais ils sont à nouveau ciblés par des attaques d'hommes armés ces dernières semaines. Les déplacés de la plaine Savo et Lala en Ituri expriment ainsi leur exaspération et demandent une protection renforcée, demande adressée au vice-ministre de la Défense en séjour en Ituri. Ouverture ce mercredi du débat général de la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Devant l'Assemblée, le secrétaire général des Nations Unies décrit un monde pris dans un tourbillon d'impunité, d'inégalité et d'incertitude. Et puis, il est interdit aux chefs coutumiers du Kassai central de quitter leurs entités sans autorisation préalable. Décision du ministre provincial de l'Intérieur, Alain Lukusa, dit avoir constaté que plusieurs conflits dans des regroupements ou villages sont liés à l'absence prolongée ou à la gestion à distance des autorités coutumières. Madame, Messieurs, bonjour. Le vice-ministre de la Défense, Sami Adubango, en mission en Ituri depuis dimanche, s'est rendu hier mardi à Boulé, dans le territoire de Djougou. Nous sommes à 100 km de Bounia, cela à bord d'un vol spécial de la MONUSCO. Sur place, il a visité les sites de déplacés de la plaine Savo et Lala. Ces sites, placés sous la protection des phares d'essai et des casques bleus de la MONUSCO, ont été attaqués il y a 4 jours par des hommes armés, causant la mort d'au moins 6 occupants. Les déplacés demande au vice-ministre une protection renforcée. Reportage de Martial Papi Mukeba.
Les déplacés des sites de Lala et Plaine Savo ont exprimé au vice-ministre de la Défense leur exaspération. Après avoir fui l'insécurité dans leur village, ils sont à nouveau ciblés par des attaques d'hommes armés ces dernières semaines. Désiré Malodra, président de la société civile de la chefferie de Bahema Bajere, appelle à une meilleure sécurité pour ces déplacés.
Nous lui avons parlé du carnage récent du site Plaine Savo. 9 personnes tuées sauvagement par les assaillants de Codeco. Qu'ils puissent attaquer le ministre de Défense. Plaider au niveau du gouvernement pour éviter que ce genre de choses arrivent, qu'on augmente l'effectif militaire.
Sami Adubango, vice-ministre de la Défense nationale, conscient de la vulnérabilité de ses déplacés, a promis de prendre des mesures pour assurer leur protection.
Il y a certaines stratégies de défense que je ne saurais pas dévoiler ici. Nos frères ont pris les armes contre leurs propres frères. Ils ont engagé leurs responsabilités en signant des accords de paix. Et celui qui ne va pas répondre selon son engagement, la République pourra s'occuper de lui.
Les sites des déplacés de Lala abritent environ 7600 personnes, tandis que celui de Plaine Savo en accueille un peu plus de 10 000. Bounia, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Une autre personnalité séjourne en Ituri. Il s'agit de la haut-commissaire assistante du ACR en charge de la protection. Elle est arrivée mardi à Bounia à la tête d'une forte délégation. Ruvendrini Medikiwela a aussitôt rencontré à son arrivée le gouverneur de l'Ituri avec qui elle a échangé sur un certain nombre de questions relatives aux personnes déplacées lors de sa toute première visite en RDC. Elle visite certains sites des déplacés installés à Bounia et dans sa périphérie. C'est dans l'objectif de s'imprégner de conditions de vie de ces personnes et s'enquérir de leurs besoins. On écoute la haut-commissaire assistante du ACR chargée de la protection au micro de Jean-Claude Loki.
Ceci est vraiment ma première visite dans la RDC et j'ai tenu vraiment à venir visiter la province de l'Ituri, pouvoir pour moi-même pour avoir une conversation avec monsieur le gouverneur et pouvoir pour moi-même la situation des personnes déplacées ici dans les sites, parler avec eux pour comprendre un peu leur situation aussi. J'ai eu un entretien très 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 cordial avec son excellence et on a parlé beaucoup des personnes déplacées mais aussi des réfugiés, des Sud-Soudanais qui se trouvent aussi dans cette province mais aussi des retournés, des plus de 700 000 déplacés internes qui sont retournés chez eux et les solutions durables dont ils ont besoin. On continuera à soutenir le gouvernement provincial ici en ce qui concerne la protection, l'assistance et aussi les solutions durables pour les personnes déplacées. On espère bien qu'avec notre collaboration, que les autorités locales puissent arriver à leurs objectifs, c'est-à-dire rétablir la paix ici dans cette belle province et bien sûr que tous les déplacés peuvent rentrer chez eux et vivre en paix chacun l'un avec l'autre dans ces communautés.
Ouverture ce mercredi du débat général de la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Devant l'Assemblée, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, décrit un monde pris dans un tourbillon d'impunité, d'inégalité et d'incertitude. Je le cite, « Nous vivons une ère de transformation aux proportions épiques et faisons face à des défis sans précédent qui exigent des solutions mondiales. Je me tiens devant vous face à ce tourbillon, convaincu des deux vérités primordiales. Tout d'abord, l'état dans lequel s'est trouve notre monde n'est pas viable, on ne peut pas continuer ainsi. Et deuxièmement, il est possible de relever les défis auxquels nous sommes confrontés, mais pour cela, nous devons nous assurer que les mécanismes de règlement des problèmes internationaux permettent bel et bien de régler les problèmes. » Fin de citation. Par ailleurs, Antonio Guterres s'est entretenu ce mercredi avec le président Félix-Antoine Tshisekedi de la RDC. Ils ont discuté de la situation dans l'est du pays et des efforts de paix régionaux en cours, porte le porte-parole du patron de l'ONU. Le secrétaire général réitère le soutien des Nations Unies aux initiatives de paix régionales. Pendant ce temps, la Cour de justice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Est, EAC, ouvre jeudi à Arusha en Tanzanie le procès sur les atrocités du Rwanda en RDC. C'est dans ce cadre que le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba, conduit une forte délégation congolaise à Arusha pour porter le plaidoyer de Kinshasa. Blaise Ndongala Mayanda.
Hormis le front militaire, Kinshasa lance la bataille judiciaire pour obtenir la condamnation de Kigali, qui commet diverses exactions sur la population civile dans l'est du pays. Le gouvernement a introduit une requête devant la Cour de justice de l'EAC qui fixe une ouverture du procès pour ce jeudi 26 septembre. Cette première audience constitue une session d'introduction au cours de laquelle la RDC est appelée à prouver la culpabilité du Rwanda qui, avec sa rébellion, violerait l'acte instituant la communauté des États d'Afrique de l'Est. Les accusations congolaises contre les Rwandais portent sur la présence militaire rwandaise dans l'Est de la RDC ainsi que les pillages, viols, massacres perpétrés dans cette partie du pays. Sur la base de ces plaidoyers, la Cour devra alors statuer sur la violation éventuelle de l'acte fondateur de l'EAC par les Rwandais. Le vice-ministre de la Justice et Comptabilité électorale, qui est sur place à Arusha, croit dur comme fer à la victoire de la RDC dans ce procès, étant donné que le dossier est suffisamment documenté par les différents rapports des experts de l'ONU.
Dans l'actualité aussi, plus de 700 jeunes sont recrutés pour le compte de l'armée dans l'espace Grand Bandundu. Le commandant de la 11e région militaire, le général-major Paddy Rijonas, l'a fait savoir lundi lors d'une parade spéciale qu'il a présidée à l'attention de ses hommes à Kikwit. Ces jeunes vont être transférés dans un centre d'inscription pour des formations militaires, annonce faite par le porte-parole de cette région militaire, le capitaine Anthony Mwalushai, le dit au micro de Irène Boma.
700 jeunes en provenance des trois provinces qui composent le Grand Bandundu, à savoir Kwilu, Kwango et Maindombe, ont accepté d'intégrer l'armée congolaise, servir la nation, défendre la République démocratique du Congo contre tous les mouvements rebelles qui sévissent non seulement à l'est de la RDC, mais sur l'ensemble du territoire national. Ces jeunes, c'est un modèle à suivre. Ils ont accepté de servir la RDC sous les drapeaux nationaux et répondant ainsi oui à l'appel du commandant suprême des forces armées. Leur acheminement vers la ville province de Kinshasa a déjà commencé. C'est mardi vers Kinshasa, afin de rejoindre le centre d'instruction. Ils vont avoir des formations militaires de base avant de devenir militaires. C'est vraiment un message fort que la jeunesse du Grand Bandundu lance aux insurgés de Mobondo, mais aussi d'autres mouvements rebelles qui sévissent à l'est de la RDC et aussi un exemple pour d'autres jeunes.
Et puis, le Sénat s'engage à défendre les intérêts des institutions commerciales afin d'amener le gouvernement à allouer un budget conséquent pour les investissements et les fonctionnements des provinces. C'est ce qu'a affirmé lundi le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde, au cours d'une rencontre avec les présidents des assemblées provinciales de toutes les 26 provinces de la RDC. Le compte-rendu de Michel Kifindangoy.
Reçu en premier, Le président des assemblées provinciales affirme être venu soumettre au speaker du Sénat les problèmes auxquels sont confrontées leurs assemblées respectives sur l'ensemble du territoire national. En l'occurrence, les questions relatives aux impayements des députés provinciaux, mais aussi celles liées au fonds d'investissement pour les exécutifs provinciaux et à la rétrocession aux provinces. Alain Tshisungu, président de l'assemblée provinciale du Kasaï.
Nous sommes venus soumettre les pommes qui rongent de ces assemblées, le problème des impayements, des fonds d'investissement pour l'exécutif, la rétrocession pour nos provinces. C'est de tout ça qu'elles sont venues soumettre.
Pour sa part, le gouverneur de la province du Tanganyika a soumis au président du Sénat une série de problèmes que connaît sa province. Christian Kitungwa.
Nous avons brossé plusieurs situations, notamment la situation sécuritaire, la situation économique de la province, ainsi que le projet du corridor entre la RDC et la Tanzanie.
Conscient du fait que les sénateurs sont l'émanation des provinces et qu'ils sont les porte-voix de celles-ci au niveau central, le président du Sénat a promis aux autorités provinciales son implication pour des solutions idoines.
Direction le Nord Kivu. La ville de Beni dispose d'au moins 2 décharges publiques implantées dans des quartiers périphériques. Cependant, ces dépotoirs constituent un grand danger de santé publique. Par manque de recyclage des déchets, les immondices y sont jetés en désordre, dégageant des odeurs nauséabondes, gênant tout l'entourage, exposant les riverains à des maladies. C'est notamment dans les quartiers Nzuma et Kasangatua où des habitants tirent la sonnette d'alarme. Marc Marofimbo, reportage.
C'est une situation catastrophique, explique cet habitant voisin de la poubelle publique d'Nzuma. Ici, des tricycles de particuliers ainsi que des camionnettes des sociétés d'assainissement de la ville viennent y déverser tous les déchets de ménage et des immondices ramassés de tous les lieux publics de la ville. Le chef du quartier Nzuma, Josué Kapisa, craint un gros risque d'épidémie dans son entité.
Comme la gestion de cette poubelle publique ne nous revient pas, n'importe qui à provenance du centre-ville en véhicule, triporteur, moto et amène ses immondices dans cette poubelle publique et les jette où il veut. Et aujourd'hui, il y a des ordres totaux dans cette poubelle publique jusqu'au peu où, étant donné que nous sommes dans une période où il y a de fortes épidémies, vraiment les risques de contamination sont très élevés chez nous et on ne sait plus quoi faire.
Toute notre tentative pour avoir la réaction du chef urbain du service de l'environnement gestionnaire de ces décharges publiques n'ont pas abouti. Pendant ce temps, la population décrit la présence des tas d'immondices en plein centre-ville. Ils sont visibles notamment devant le château de la tribune officielle en face de l'hôtel des villes, au croisement de l'entrée principale de l'avenue commerciale du quartier Matongé et à l'entrée principale du marché central de Kilokwa. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Province du Maniema, l'université Mapan vient de produire ses premiers ingénieurs civils. Sur 345 étudiants inscrits en pré-polytechnique, 31 seulement ont fini l'année académique. La collation des grades académiques a eu lieu mardi à Kindu devant une foule immense réunie dans l'amphithéâtre de l'université. Satisfaction pour Matata Ponyo notamment. Reportage de Florence Kizalunga.
La joie était très visible tant chez les lauréats que chez les membres de famille. Madame Yoari Ngongo, mère d'un boursier, exprime sa joie.
Moi, je n'avais pas les moyens de faire étudier l'enfant, mais aujourd'hui, ingénieur civil grâce à la fondation Mapon. Merci papa Mapon.
L'ordre des ingénieurs civils s'en félicite. Muhamba Alemba.
L'ingénieur est quelqu'un qui est formé à la rigueur, à l'excellence et à la qualité du travail. Et nous attendons que vraiment il fasse montre de ses qualités parce que l'université Mapon a cette réputation-là. Donc nous attendons qu'ils puissent intégrer ces éléments, qu'ils se mettent aux côtés de leaders intègres pour que nous fassions la différence avec eux et qu'ils soient demain les successeurs de leaders pour le développement de notre pays.
Matata Ponyo attend d'eux la transformation du monde.
Ce sont des ingénieurs brillants, donc ce sont des ingénieurs qui sont pour l'ensemble du pays. Je l'ai dit, qui transforment le monde. Chacun d'entre nous est né pour apporter quelque chose de positif pour l'avancement de l'agenda de l'humanité. Et pas pour détruire. La jeunesse congolaise doit savoir que le monde a besoin des meilleurs, de ceux qui ont la capacité de transformer le monde.
Signalons que ces ingénieurs civils bilingues viennent s'ajouter à plus de 1000 qui existent au pays. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale. Le Burundi comptabilise 1489 cas suspects de la variole du singe. Selon un responsable de l'UNICEF, l'augmentation du nombre des cas de monkeypox dans le pays est inquiétante, particulièrement parmi les enfants de moins de 5 ans. Ces derniers représentent 30% des cas signalés en pleine période de rentrée scolaire. Les directeurs prennent des mesures pour prévenir la propagation du virus.
L'invité.
Il nous vient du Kasaï central. Le ministre provincial de l'Intérieur interdit tout mouvement des chefs coutumiers en dehors de son entité sans autorisation préalable. La décision est contenue dans une circulaire signée par Alain Loukou-Sampoy. Invité de Radio Kapi, le ministre provincial de l'Intérieur du Kasaï central dit avoir constaté que plusieurs autorités sont en errance et différents conflits dans leurs regroupements ou villages sont liés à leurs absences prolongées ainsi qu'à la gestion à distance. Alain Loukou-Sampoy en parle dans cet entretien. Entretien avec François Kadima.
Monsieur Alain Loukoussa, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous interdisez les mouvements de chefs coutumiers. Vous estimez que ce mouvement doit être conditionné par une autorisation. Qu'est-ce qui motive cette décision?
D'abord, selon l'esprit de la loi 15, portant statut de chef coutumier, tout chef a l'obligation de rester en permanence dans son entité ou dans son groupement. Mais depuis un certain moment, nous voyons l'afflux des chefs coutumiers quittant leurs entités, c'est-à-dire les territoires qui sont loin de la ville, en errance sur la ville de Kananga et parfois fréquentant même des débits de boissons en dessous des arbres en train de se regrouper, ceux qui n'honorent pas le pouvoir coutumier en soi. C'est ainsi que nous nous sommes dit, le déplacement des chefs coutumiers, parce qu'ils sont gardiens des entités, ils sont gardiens de la population dans leurs regroupements respectifs, ils doivent être là en permanence pour garder la population et éviter différents conflits qui parfois sont l'émanation de leur absence prolongée et les intérimaires commencent à prendre le goût du pouvoir et ce qui parfois fait naître des conflits coutumiers.
Alors qu'est-ce qui est réellement interdit? Simplement les mouvements? La liberté de circulation ne peut pas être interdite à une personne?
Dans notre circulaire, nous n'avons pas interdit la liberté d'aller et de revenir, surtout qu'elle est constitutionnelle, mais nous avons voulu réglementer ou bien organiser les déplacements des chefs des entités, c'est-à-dire pour leur déplacement de leur territoire ou des secteurs pour la ville de Kananga. Ils sont censés informer leurs chefs des secteurs et ceux-là doivent leur livrer une feuille de route pour qu'ils puissent se rendre sur la ville. Ils peuvent être en ville pour des besoins personnels, familiales et parfois pour rencontrer l'administration. Mais néanmoins, le document que le chef des secteurs pourra établir pour leur déplacement, c'est ces documents-là qui pourront aussi servir à ce qu'ils puissent entrer directement en contact avec nous, l'administration. D'autant plus que nous sommes en train de voir, il y a un système aujourd'hui, certains protagonistes qui ne sont pas chefs coutumiers, qui ne sont pas chefs de groupement, mais qui viennent facilement sur la ville, habillés en tenue de pouvoir coutumier, venir parfois induire l'administration en erreur sous prétexte qu'ils sont chefs de groupement alors qu'ils ne le sont pas. Et pour pallier à cette situation, c'est pourquoi nous avons mis des garde-fous qu'un chef de groupement est censé être reconnu par son chef de secteur et alors celui-là va lui établir un document de feuille de route, c'est ce qui va lui donner accès à venir nous voir en tant qu'administration. Mais la liberté d'aller et revenir, ils peuvent le faire, mais une absence prolongée va créer une vacance au sein de leurs entités.
Quelles sont les mesures d'accompagnement de cette décision pour qu'elle soit réellement respectée?
D'abord, nous sommes ravis par le fait que nous avons reçu des appels de toutes parts, ainsi que même des chefs coutumiers et certaines organisations des chefs coutumiers qui ont félicité et qui ont salué cette mesure que nous avons prise. Je sais que ces associations-là vont nous accompagner, ainsi que le pouvoir public, pour que ces mouvements-là, parce que notre lutte dans tout cela, c'est pour éviter la multiplication ou bien la multiplicité des conflits coutumiers dans nos différents groupements.
Est-ce que le ministère de l'Intérieur a les prérogatives de prendre une telle décision? Est-ce que ça ne vous met pas en conflit avec les chefs coutumiers?
Nous sommes ministère de l'Intérieur et Affaires coutumières. Cette décision, elle est plutôt salvatrice pour les chefs coutumiers qui sont reconnus légalement. Et je ne pense pas que cela pourra nous mettre en conflit, d'autant plus que c'est pour préserver et faire respecter le pouvoir coutumier que nous avons pris cette décision. Les chefs coutumiers sont des grands responsables. Je pense que, en termes de préserver et de faire respecter le pouvoir coutumier, cette mesure est là pour que le pouvoir coutumier puisse reprendre sa place. D'autant plus que certaines personnes aujourd'hui, il est différent aujourd'hui d'établir une différence entre les tradis praticiens et les chefs coutumiers, par le port des emblèmes du pouvoir coutumier. Mais cette décision est en train de rétablir le pouvoir coutumier dans sa place et que le chef coutumier soit respecté comme ça a été dans le temps.
Monsieur Alain Lokoussa, nous vous remercions.
C'est moi qui vous remercie.
Le ministre provincial de l'Intérieur du Kassai Central répondait aux questions de François Kadima. Ainsi prend fin ce journal. Vous pouvez retrouver l'actualité sur la chaîne WhatsApp de Radio Kapi. Merci de rester branché sur la fréquence de la paix.